nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Pour son deuxième rendez-vous régulier sur Canal Académie des Sentinelles de l'Océan, l'académicien architecte de la mer Jacques Rougerie vient nous informer des dernières avancées de la construction de SeaOrbiter, unique vaisseau d'exploration dans son genre. La mission de SeaOrbiter sera de sillonner les mers pour mieux en connaître les courants et la vie sous-marine puisque, rappelons, que ce vaisseau du futur permettra de voir et d'étudier ce qui se passe sous la ligne de flottaison de manière constante puisqu'il dispose d'ouvertures et de grandes baies panoramiques pour voir ce qui se passe sous l'eau et s'y rendre de manière commode. Parmi les différentes missions qui seront les siennes, en particulier l'étude des courants marins, comment le bel outil de SeaOrbiter répondra au problème des pollutions marines. C'est le thème de l'émission que nous vous proposons aujourd'hui en compagnie du créateur de SeaOrbiter, Jacques Rougerie. Jacques Rougerie, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment avance la construction de SeaOrbiter dont vous nous aviez annoncé dans l'émission précédente des Sentinelles de l'Océan qu'elle devait démarrer vers 2012, la construction?
Oui, tout à fait.
Et que pour être opérationnelle en 2014 sur le Gulf Stream.
Voilà, exactement. Donc, je confirme qu'aujourd'hui, plus que jamais, donc on a une lisibilité avec nos partenaires industriels et financiers et de recherche scientifique. Pour dire que SeaOrbiter, le début de la construction, se fera fin de l'année 2011, début de l'année 2012, pour en effet être opérationnel sur tous les tests d'essai en Méditerranée en septembre-octobre 2013 et pour être dans le Gulf Stream en effet en 2014.
Donc rien n'a changé, tout continue.
Rien n'a changé, au contraire, tout s'accélère avec bonheur puisqu'on est en train de passer d'un rêve à une réalité progressivement, ça se consolide. On a de plus en plus d'acteurs au niveau international qui veulent participer à cette aventure, d'acteurs scientifiques, d'acteurs industriels, et pour accompagner ce projet qui, je vous rappelle, va amener un équipage dont je vais faire partie de 18 personnes sur des très très longues durées dans le Gulf Stream à regarder sous la mer, à travers ces grands hublots, tels Jules Verne, le Nautilus, des temps modernes. Mais on est passé du rêve, comme je vous l'ai dit, à la réalité. Donc, SeaOrbiter, c'est un outil complémentaire à tous les outils enfin, existants dans la recherche océanographique. Mais ça permet de voir, de sculpter l'océan différemment, surtout grâce à ces grands hublots, pour que l'homme puisse observer sur des très, très, très longues durées sous la mer ce qui s'y passe, que ce soit dans la biodiversité, que ce soit dans les problèmes de pollution, on y reviendra tout à l'heure, je pense, ou que ce soit la possibilité de sortir d'une façon extravéhiculaire du SeaOrbiter. Donc voilà, SeaOrbiter est un engin qui ne ressemble à aucun autre de par sa fonction et de par sa forme.
On va essayer de rentrer dans le vif du sujet et puis on reviendra. De toute façon, on fera des va-et-vient tout au long de l'émission, justement, entre SeaOrbiter et cette question des pollutions marines. Mais peut-être que pour commencer, spontanément, on a à l'esprit, quand on évoque les pollutions marines, les métaux lourds, les nappes de pétrole, les marées noires, les dégazages. Mais il y a une multitude de pollutions. Alors, que vous pourriez nous parler de cette multitude?
Très rapidement et assez schématiquement, si vous voulez. Bon, les bateaux océanographiques ou des bateaux de surface peuvent faire un certain nombre de mesures sur la pollution, sur les degrés de pollution, donc chimiques ou autres. Mais si vous voulez, la grande différence avec SeaOrbiter, c'est qu'on peut faire exactement la même chose, bien entendu, et c'est ce que nous allons faire. Mais en plus, nous allons pouvoir observer des choses qu'un bateau ne peut pas observer. Par exemple, il y a quelques années, disons pas mal d'années, j'avais construit un trimaran qui s'appelle l'Aquaspace, qui avait la particularité d'avoir la coque centrale complètement transparente sur 20 mètres de long. Et j'ai eu le bonheur de traverser l'Atlantique avec ce vaisseau, donc ce bateau. Et j'ai eu le bonheur d'ailleurs à Noël de retourner sur ce bateau au large du Venezuela, puisqu'il est dans cette zone-là. Et j'ai pu constater une chose incroyable, c'est d'observer avec donc tout l'équipage, nous observions d'une façon continue tous les jours pas toutes les heures, mais régulièrement, une forme de pollution qui est dramatique. Ce sont les sacs plastiques qui sont en suspension entre deux eaux. Et entre autres, pas uniquement, mais entre autres, les tortues viennent et mangent ces sacs plastiques, donc meurent après, évidemment. Et ça, on a constaté qu'il y a énormément de pollution plastique en suspension entre deux eaux qu'on n'observe pas à partir de la surface, qu'on ne peut pas détecter à partir de la surface.
Là, elles sont sous l'eau.
Voilà. Pourquoi ? Parce que ces sacs plastiques qui dérivent à travers... Je vous rappelle que les masses d'eau, c'est surtout des grands courants, des multitudes de courants qui se déplacent d'un continent à un autre. Et ces sacs plastiques suivent ces courants. Et il se trouve que ces sacs plastiques sont des supports pour des micro-organismes. Donc, il y a des micro-organismes qui se développent sur ces sacs plastiques. Il y a entre autres des moules, des huîtres, des percébès, des pousse-pieds, ce qu'on appelle les pousse-pieds. Et donc, après, la chaîne alimentaire vient un petit peu là-dessus pour... évidemment, c'est le principe de la chaîne alimentaire. Mais ce qui est dramatique, c'est que certaines espèces en... absorbant donc ces plastiques, donc ces différentes particules qui sont sur ces plastiques, et bien finissent à avoir des occlusions intestinales. Enfin, on meurt et c'est ça qui est dramatique. Et en plus, c'est vraiment incroyable de voir le nombre de plastiques qui peut se déplacer à travers les océans. Parce que depuis un demi-siècle, l'homme, très souvent, a jeté à la mer tout ce qu'il ne pouvait pas conserver ou ne voulait pas conserver sur la terre. Et aussi les bateaux, la plupart des cargos, des bateaux jettent à la mer les poubelles. Il n'y a pas encore une législation suffisamment claire à ce niveau-là. Donc, il faut faire attention sur les conséquences que ça peut avoir, tous ces déchets. Et ce n'est qu'un épiphénomène par rapport à l'ensemble de tout ce qui se passe.
Il n'y a pas encore de tri des déchets sur les bateaux ? Si, alors, depuis longtemps, sûrement, non ?
Non, c'est en cours. C'est vrai qu'il y a quand même des efforts qui sont faits, j'en conviens. Il y a un certain nombre, par exemple, la plupart des bateaux de croisière, maintenant, essayent de rentrer dans ces phénomènes de développement durable, de protection de la nature. Donc, il y a une prise de conscience, j'en conviens, qui n'est pas suffisante, mais qui commence à apparaître au niveau de certains armateurs qui prennent conscience, qui veulent rentrer dans ce côté citoyen, donc d'avoir des gestes citoyens. Donc, on est en plein dedans à l'heure actuelle. On a pu le voir à Copenhague, il y a eu des discussions à ce niveau-là. C'est vrai, mais il est grand temps de faire un effort encore plus important.
La pollution que vous venez d'évoquer, là, par exemple, au Venezuela, avec ces matières plastiques en suspension, les mers sont polluées à différents niveaux. Vous parliez effectivement tout à l'heure de ces masses d'eau.
C'est ce que nous avons pu voir, mais imaginez ce qui est encore plus profond.
Qu'est-ce qu'on sait sur ces pollutions plus profondes ?
D'abord, là-dessus, on ne sait rien. Sur ce que je viens de vous décrire, on se doute, mais quand je dis on ne sait rien, c'est qu'on se doute, on sait que ça existe. Des plongeurs ont pu le constater. En sous-marin, on a pu le constater. Moi-même, justement, Noël, j'étais sur ce bateau, mais en plus, j'étais dans un sous-marin scientifique, donc où on a pu observer à différentes profondeurs les conséquences de ce type de pollution, donc le long de tombants, où on voit apparaître un peu partout des sacs plastiques, des filets dérivants. Enfin, il y a plein de choses qui sont jetées à travers des systèmes de pêche et qui restent là indéfiniment depuis un demi-siècle, qui ne se désagrègent pas donc, et qui amplifient ce phénomène de destruction parce que les animaux se prennent dedans, les tortues se prennent dedans, les cétacés se prennent dedans, ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai grave problème à ce niveau-là. Alors ça, c'est qu'une partie de la toute petite partie de la pollution. Il y a des tas d'autres formes de pollution, et notamment les pollutions chimiques ou les estuaires. Et ces pollutions, après, dérivent au cœur des océans. Bon, se diluent évidemment dans cette masse d'eau, heureusement, qui est très grande, mais ça a des conséquences à tous les niveaux de la chaîne alimentaire.
Comment est-ce qu'on fait face à cette complexité ? Vous, dont le rôle est justement de préparer l'avenir...
Attention, moi je reste bien à ma place, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un donneur de leçons en plus. Donc nous créons des engins parce que nous avons constaté un certain nombre de choses. Je suis architecte, je crée des engins qui permettent à des scientifiques et à des gens qui ont d'autres formes de responsabilité de pouvoir constater, analyser et voir les conséquences que ça entraîne. Moi, je ne fais que créer des engins qui leur permettent d'observer. Voilà. C'est simplement un sentiment personnel vécu, une émotion, et par rapport à ce gâchis que ça représente. C'est dans ce sens-là que j'interviens, non pas d'un point de vue du tout scientifique. Alors, mais c'est un vaste problème. Ça démarre de la côte, ça démarre ces pollutions. Si on garde que le principe des sacs plastiques, à partir de la ménagère, bon, mais ça se met en place. Mais est-ce que tous les pays riverains mettent en place les mêmes systèmes? C'est pas sûr, vous le savez très bien. Par exemple, si la France décide donc de mettre en place ce type de dispositif ou de ne pas jeter à la mer les ordures comme d'autres pays que je ne citerai pas, mais d'autres pays jettent leurs déchets à la mer. Vous avez les courants qui les ramènent sur nos plages. Et régulièrement, dans les Landes, par exemple, on est obligé de ramasser jour après jour quasiment les déchets de pays riverains. Et ça, c'est catastrophique. Voilà. Donc, certains de ces déchets viennent vers les plages, mais d'autres déchets partent directement au large et dans le Gulf Stream.
Par exemple, à l'échelle planétaire, la carte des courants marins, etc., montre des endroits ou des zones où on peut distinguer des régions marines où se concentrent, par exemple, où s'accumulent comme ça, quelque part, des dizaines de déchets.
Alors, c'est ce que nous allons aller observer. Ça fait partie d'un des programmes que les Américains nous ont demandé, donc avec Sylvia Earle. Donc, nous avons un programme dans le Gulf Stream, du côté de la mer des Sargasses, où on retrouve en effet des îlots, mais des îlots à une très très grande échelle, qui sont de l'ordre du département de la Seine. Donc ce n'est pas des petits îlots de 10 mètres de diamètre, où on trouve des concentrations énormes de déchets de toutes sortes. Ça part du container, je ne sais pas si vous imaginez.
J'ai vu des photos,
c'est
ahurissant.
C'est très impressionnant. Ouais. Et là, on a très peu de données. On a quelques photos aériennes, d'abord parce que ce n'est pas une zone de navigation, donc très peu de bateaux y vont. Il faut vouloir y aller pour faire un certain nombre d'études, d'observations. Donc ça, nous allons aller, comme Jean-Louis Etienne avait fait pour aller à Clipperton, où il avait constaté sur l'île de Clipperton les déchets, les dégradations qu'a pu subir cette île. Et donc, ils ont essayé de nettoyer. La fonction ne pourra pas, à travers ces orbitaires, nettoyer, mais on pourra analyser un petit peu les conséquences. Et puis, ça nous permettra en même temps de voir les conséquences sur la mer propre des Sargasses, où là, on a un programme de recherche, d'observation sur une longue durée, ce qui n'a jamais été fait, parce que là, il se passe plein de choses méconnues. Et le ciel orbitaire pourra analyser, observer et transmettre ces données.
Et voir ce qui se passe sous l'eau tout le temps, quoi.
Ah oui.
Parce que là, ça sera un outil formidable aussi.
Oui,
vous allez peut-être franchir cette banquise de déchets, j'allais dire.
Voilà. Mais une fois de plus, le ciel orbitaire n'est pas fait pour observer uniquement les déchets. C'est une des parties infimes de ciel orbitaire. Si vous voulez, c'est dû. Le constat dans les programmes de ciel orbitaire, le constat a été fait à partir du programme de l'Aquaspace, qui n'avait pas été fait du tout. Et c'est parce qu'on a constaté en traversant l'Atlantique, dont on a traversé l'Atlantique, on est resté dans le Gulf Stream, on a été surpris, et même les scientifiques ont été surpris, du nombre de déchets qu'on voyait d'une façon permanente, jour après jour, en suspension, entre deux eaux, en plein cœur de l'océan Atlantique, de la densité que représentent ces déchets.
À des endroits inattendus, en fait.
À des endroits inattendus, oui, en plein cœur de l'Atlantique, quand vous restez jamais plus de 3 heures sans voir un sac plastique, vous posez des questions. Ce que ça représente comme territoire et dans ces masses d'eau, c'est quand même inquiétant.
Alors, je ne voudrais pas du tout minimiser le problème des pollutions marines, mais par rapport au changement climatique et au fait que l'homme modifie l'atmosphère, les eaux terrestres par ses activités, ma question est la suivante. Par rapport à ces grands changements d'ordre systémique, que représente la part des pollutions? Est-ce que c'est moins important? Est-ce que c'est inférieur? Comment vous la situeriez par rapport à ces grandes questions?
Alors, là aussi, attention, je ne suis pas climatologue, je ne suis pas scientifique. Mais disons, mon regard, l'échange que j'ai pu avoir avec des scientifiques qui travaillent dans ce domaine et de voir comment avec eux le ciel orbitaire peut apporter, disons, une connaissance pour mieux appréhender donc ces phénomènes. D'abord, il faut quand même rappeler aux auditeurs que la Terre, et on vient de le voir aujourd'hui à travers la secousse sismique qui vient d'être provoquée au Japon, la Terre, c'est un élément vivant qui, à travers les siècles et les millénaires, bouge et est vivant. Donc, il y a des changements climatiques d'une façon constante à travers l'évolution de la planète. Mais ça se passe sur des siècles et des siècles, ces changements climatiques. Je pense, d'après ce que nous constatons et d'après ce que j'entends dire et d'après ma petite analyse personnelle, je pense qu'en effet, l'homme est pour quelque chose dans l'accélération depuis un siècle des changements climatiques. Mais de toute façon, ces changements climatiques se font en dehors de l'homme, mais sur des millénaires. Donc, les animaux comme les hommes ont le temps de se réadapter à la montée des eaux, au contraire, aux zones tropicales ou aux zones désertiques, ainsi de suite. Donc, l'homme a cette capacité de s'adapter dans différentes zones, que ce soit les Inuits, que ce soit les Touaregs, que ce soit les Indiens d'Amazonie. Ils ont su s'adapter à ces zones géographiques en pleine harmonie avec ces zones. Mais ça s'est fait progressivement, tout doucement, tout doucement. Là, le drame, c'est que la montée des eaux, par exemple, à cause du phénomène climatique, comme vous dites, eh bien, prenons que le monde ilien, prenons les Maldives comme exemple, eh bien, une montée des eaux de 50 cm, ça remet mais vraiment tout en considération sur ces peuples maldiviens, c'est-à-dire où est-ce qu'ils vont aller ? Où est-ce qu'ils vont aller ? Vous allez déplacer des peuples entiers, des pays entiers, à cause de cette montée des eaux, beaucoup trop rapidement. Alors, si Orbiter est un des nombreux outils à l'heure actuelle qui permet d'analyser ces conséquences climatiques, donc le fait que ce soit une sorte de bouée-perche, donc on aura des capteurs au-dessus de l'eau sur 20 mètres de hauteur tous les 25 cm, nous aurons des capteurs sous l'eau de tous les 25 cm sur 30 mètres de hauteur qui permettront d'analyser le CO2, l'interface entre l'air et l'eau, mais c'est un des éléments parmi tant d'autres qui existent.
Quels sont les programmes prévus, si déjà c'est mis en place les programmes scientifiques qui sont,
alors, les
par exemple, sur Cirobiter?
Les grands programmes scientifiques de Cirobiter, il y a le climat dont on vient de parler avec ses capteurs d'analyse de CO2. Nous avons surtout le grand programme sur le principe des DCP, sur le principe de phénomènes d'agrégation. Nous avons le programme sur la biodiversité, c'est-à-dire nous pourront observer dans ces masses d'eau, dans différentes couches d'eau, d'abord d'un point de vue visuel, direct depuis le Cirobiter, des phénomènes jamais peut-être observés, peut-être déjà observés, mais donc on amplifiera ces observations. Mais nous, une fois de plus, je rappelle, c'est sur des longues durées et d'une façon permanente que nous observons sous l'eau. Donc on pourra, entre autres, voir la migration en partie des tortulutes, la migration des cétacés, les migrations planctoniques, les migrations de différentes espèces, que ce soit de méduses, que d'ailleurs on avait observé avec l'Aquaspace en 1985 dans le Gulf Stream. Nous pourrons faire partir à partir de Cirobiter un certain nombre d'engins, puisque Cirobiter c'est une sorte de ruche, et d'où partiront des abeilles pour butiner un certain nombre d'informations. Donc on aura un sous-marin biplace qui permettra de descendre jusqu'à 600 mètres de profondeur pour faire des observations en continu. Nous avons deux ROV qui permettent, donc ce sont deux robots qui permettent de descendre à 1200 mètres, donc approcher les simonts, c'est-à-dire les montagnes sous-marines. Vous avez tous les phénomènes de sources hydrothermales qui commencent à apparaître. Donc ça aussi, c'est très nouveau. Et nous, là, on pourra rester dans un lieu pendant plusieurs jours, plusieurs semaines pour observer ces phénomènes, ce que ne peut pas faire correctement un bateau ou peut le faire que partiellement. Nous, on pourra le faire sur des très longues durées dû à la stabilité de Cirobiter et à ses systèmes de positionnement. On aura en plus un AUV qui, lui, alors là, descendra à 6000 mètres de profondeur. Donc, on pourra aller encore plus loin dans tout ce qui est recherche, justement, sur les sources hydrothermales.
Alors, vraiment, toutes les formes de navigation, j'allais dire, dans les profondeurs, vont accompagner Cirobiter. Ça, c'est extraordinaire.
Mais je rappelle que Cirobiter n'est pas un bateau océanographique. C'est un bateau qui accompagne une certaine recherche spécifique qui peut se faire à partir de Cirobiter, donc à la disposition, c'est une plateforme multifonction à la disposition des scientifiques, pas uniquement français, européens et au niveau international, mais surtout Cirobiter, je le rappelle, c'est un outil de communication et de pédagogie pour les enfants, pour les écoles, pour les centres de recherche, pour tout ce qui est centre de la mer, aquarium au niveau mondial, pour que le grand public comprenne les enjeux de demain que représentent les océans et les grands enjeux sur la biodiversité, sur les masses d'eau, sur les masses d'air, donc le climat, sur tout ce qu'on peut observer sur les phénomènes de pollution dont on vient de parler. Mais il faut que le grand public comprenne et cette information pour qu'ils participent à ce destin de demain, de ces grands enjeux des océans, parce que c'est leur devenir pour le développement durable, pour les nourritures du futur, pour la pharmacologie de demain. Donc, c'est les mettre en éveil pour qu'ils eux-mêmes aient leur propre vocation et leur propre compréhension de ces grands enjeux.
Est-ce qu'on a déjà une idée sur Cirobiter de comment on va traiter justement les propres déchets des équipages sur un long terme comme ça, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, tout ça a été envisagé?
Oui, tout à fait. À l'heure actuelle, comme sur les grands paquebots, comme sur les bateaux de recherche océanographique, la Marine nationale fait très, très attention. La Marine nationale ne lâche pas comme ça ses déchets en pleine mer. Ça n'existe plus, ça, depuis très longtemps. Vous ne voyez pas un bateau océanographique de la recherche, par exemple, d'Ifremer, balancer par-dessus bord des sacs poubelles. C'est impensable. On ne peut pas avoir un double discours. Donc, à bord du Cirobiter, on a une charte extrêmement stricte sur le comportement des hommes du Cirobiter, sur l'équipage. Et donc, tous les déchets seront traités, empaquetés, détruits en partie à bord du Cirobiter. Et dès qu'on est avitaillé, donc tous les 3 à 5 mois, nous allons être avitaillés en pleine mer, les déchets récupérables seront donc transférés à bord des bateaux qui viendront nous avitailler.
Le journal Le Monde du 9 février 2011 a informé les lecteurs de la mise en place prochaine d'un grand réseau d'observatoires sous-marins pour surveiller la Terre. Alors, l'idée, ça serait d'avoir l'équivalent de satellites, mais sous l'eau, à plusieurs endroits de la planète mer. 12 sites sous-marins ont été sélectionnés de l'océan Arctique à la Méditerranée pour justement implanter des modules d'observation fixes entre 2000 et 3000 mètres de profondeur. Alors, il y a 14 pays qui participent à ce programme chargé d'étudier les mouvements telluriques dans les grandes profondeurs. Il s'agit du projet ESONET, je ne sais pas comment on prononce, European Sea Observatory Network. Et c'est coordonné par l'IFREMER à Brest. Alors, Jacques Rougerie, de tels projets vont dans votre sens de mieux connaître la vie sous-marine.
Je suis très heureux de voir ça, cet article. En effet, de plus en plus, un certain nombre de pays œuvrent pour des observatoires sous-marins permanents à différentes profondeurs, donc des capteurs océaniques à l'écoute et même enregistrés soit à l'écoute, soit en observation visuelle à travers des caméras, des robots. Mais c'est cette permanence qui est intéressante. C'est cette permanence, soit cette permanence à travers un système robotisé, soit cette permanence de l'homme sous la mer sur des très longues durées, parce qu'il est évident que cette notion de permanence va permettre d'avoir des données que nous n'avons jamais eues à ce jour. Et donc, il faut le faire d'une façon planétaire et non pas sectorielle.
Donc, dans ce projet d'observatoires sous-marins qui vont être implantés dans des profondeurs assez importantes, qui seront donc à l'écoute, comme Cirobiter, des phénomènes naturels, des risques et des changements climatiques. Effectivement, il y a là l'idée qu'on ne lance
le côté
plus d'émissions.
Précaution. Enfin, il y a différentes formes d'observatoires. Vous avez soit pour justement qui vient d'arriver au Japon, c'est-à-dire les conséquences des secousses donc telluriques, que ce soit sur le climat, que ce soit sur la biodiversité, que ce soit sur les flux migratoires d'un certain nombre d'espèces. Il y a des tas d'éléments qui interviennent. Et puis en plus, je vous rappelle que quand même, l'immensité des océans, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement vaste. Donc on en est au balbutiement de ce type d'observation, de ce type de recherche. C'est vraiment très nouveau comme démarche. C'est une nouvelle forme de cartographie. Mais je vous rappelle, il y a deux types d'observations. Vous avez l'observation à travers la robotique et vous avez l'observation à travers l'homme. Et l'homme est quand même irremplaçable dans certains cas de figure.
Voilà, là, on va enfin pouvoir aussi croiser les données avec ces nouveaux projets, ces nouvelles stations d'observation qui sont là permanentes au fond de l'eau. Mais il n'y en a qu'une douzaine, elles sont un peu partout. Et Cirobiter, lui, sera en mouvement. Donc là, on va avoir vraiment un chassé-croisé de données qui vont probablement beaucoup intéresser les scientifiques. Peut-être, Jacques Rougerie, évoquons aussi, aujourd'hui on vient d'apprendre un tremblement de terre de magnitude de 8-9 au Japon, avec des conséquences sur les océans et probablement des tsunamis à venir. Il y a déjà eu des vagues de 10 mètres sur les côtes japonaises. Est-ce que les leçons des tsunamis précédents ont été tirées ?
Oui, je pense.
On est très tôt dans l'événement, la gestion de l'information, etc.
Voilà.
Mais il y a eu tellement de choses de fait que...
Ne jetons pas la pierre quand même à l'homme par rapport à ce problème de tsunami. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le développement peut-être touristique amène à une imprudence donc de se mettre le long de la plage, des bungalows, des hôtels, tout un équipement touristique ou portuaire. Bon, c'est un peu ce qu'on peut peut-être reprocher, mais... Une fois de plus, soyons lucides, la Terre est en mouvement perpétuel à travers les siècles et pour encore des siècles jusqu'à la fin de l'existence de la Terre. Donc ces phénomènes de secousses telluriques et ces phénomènes donc, de tsunami existeront jusqu'à la fin de la Terre. Heureusement que l'homme a un génie quand même quelque part. Il a le génie de la technologie, d'avoir imaginé des engins incroyables, de mettre au point des engins formidables, même si bon, certains de ces engins, je dois reconnaître, ont détruit certaines choses, mais d'autres engins permettent de mieux comprendre ces mécanismes terrestres et permettent d'alerter, entre autres. Donc, on peut imaginer des puces à moindre frais à travers la planète qui alertent systématiquement, qui préviennent des dangers qui vont arriver, de prendre à ce moment-là un certain nombre de dispositions planétaires. Je crois qu'on y arrive, c'est en cours, que ce soit les Américains, que ce soit différents pays, les Australiens et tout. Tout le monde s'y met, même en Europe, et pour essayer de prévenir ces secousses sismiques, ce n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, mais surtout prévenir les populations littorales pour qu'elles se mettent tout de suite en sécurité. On va y arriver, je pense que d'ici 20 ans, on y arrivera. Mais ça n'empêchera pas les dégâts, ça n'empêche pas le fait que l'homme, de plus en plus, tend à vivre le long du littoral. Et forcément, on aura ce type de conséquences de destruction de certains équipements. C'est malheureusement inéluctable.
La Fondation Jacques Rougerie Espace Mer va probablement aider d'une façon ou d'une autre par des récompenses de prix, les prochaines avancées technologiques qui seraient en rapport avec ça.
Oui, tout à fait. Sur les observatoires, par exemple, sous-marins, nous pouvons très très bien doter des bourses de recherche pour des ingénieurs qui imagineront justement ces engins ou ces observatoires. Donc on a des bourses qu'on va chaque année avec l'Institut offrir à ces jeunes chercheurs ingénieurs, hein, pas biologistes, hein, ingénieurs. Donc c'est bâtir le futur, c'est construire le futur à travers ces engins, ou soit des architectes qui imaginent des structures permettant à une équipe d'océanographes d'observer sous la mer. Voilà, donc il y aura des prix, il y aura des bourses chaque année qui seront remis au cœur de l'Institut de France.
Merci Jacques Rougerie d'être venu parler des pollutions marines qui touchent toutes les mers du globe et de nous avoir surtout parlé de la façon dont SeaOrbiter justement pourra les observer, pourra en rendre compte à travers ses programmes, à travers l'outil fabuleux que constitue justement SeaOrbiter qui est une aide précieuse dans cette lutte indispensable à une meilleure prise en main de notre destin commun.
Je vous ai donné qu'un petit regard d'un vécu à travers cet engin qu'est l'Aquaspace, où j'ai pu en effet constater ce type de pollution à travers les sacs plastiques. Mais une fois de plus, c'est quand même un problème planétaire extrêmement, extrêmement complexe.
Je rappelle qu'avec votre agence d'architectes et votre fondation Jacques Rougerie Génération Espace Mer, vous vous placez au service des jeunes, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure. Et j'engage les auditeurs évidemment à consulter le site internet de la Fondation. Et je renvoie aussi à la lecture du beau livre consacré à SeaOrbiter qui s'appelle « De 20 milieux sous les mers à SeaOrbiter ». Et j'invite également les auditeurs à vous écouter dans la première émission des Sentinelles de l'Océan que nous avions consacrée au port du futur, à la fonte des glaces et aux conséquences de la marée noire du golfe du Mexique en 2010. À bientôt Jacques Rougerie pour un nouveau rendez-vous des Sentinelles de l'Océan.